Bonjour, vous êtes sur Plan B. Aujourd'hui, on va de nouveau parler d'énergie. Je suis, comme souvent, avec Philippe Gauthier. Bonjour, Philippe.
Bonjour.
Ouais, comme souvent, peut-être comme trop souvent d'ailleurs, enfin bref, c'est vraiment trop de poils à gratter. Je suis aussi avec Damien Salel. Damien, tu es déjà venu précédemment et on aimerait te voir plus souvent, donc sois le bienvenu.
Bonjour. Tu veux que je me présente de nouveau, puisque vu que je viens pas souvent, ça peut peut-être.
Oui, peut-être Damien, parce que Philippe, on commence à connaître, mais dis peut-être quelques mots sur toi et ton expertise dans le domaine du photovoltaïque.
Oui, donc moi je suis ingénieur, expert en photovoltaïque et intégration des énergies renouvelables au réseau. Donc j'ai travaillé quelques années pour une association qui s'appelle ESPUL, qui gère en fait le Centre national de ressources sur le photovoltaïque. Donc c'est un site qui s'appelle notamment photovoltaïque.info. Et en fait l'objectif de l'association c'est d'informer sur le photovoltaïque, sur les démarches administratives. Et pour ça, on est financé par des fonds publics. Essentiellement, quoi, c'est 70% de nos revenus, on va dire.
Aujourd'hui, on va parler d'un cas dont on discute assez rarement en France, et c'est dommage, celui de l'Australie méridionale. Alors, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce que c'est que ce drôle d'oiseau? Pendant plusieurs semaines, vous m'envoyez des messages à me tanner. Ah, Cyrus, regarde l'Australie méridionale, c'est génial et tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec cette... C'est quoi l'Australie méridionale? Qu'est-ce que c'est que bon. Alors, c'est très intéressant. Une région d'Australie peuplée de 2 millions d'habitants qui, en seulement 15 ans, est passée d'une électricité 100% fossile, gaz et charbon, à 70% renouvelable, et donc encore 30% de gaz. Et ce 70% renouvelable, dedans, il y a zéro hydraulique, et il y a surtout du solaire, de l'éolien et un peu de batterie. Alors, comment diable ont-ils fait? Dans quelle mesure c'est un laboratoire qui peut potentiellement montrer la voie pour le reste du monde? Bien sûr, ici, on ne parle que d'électricité, donc le 70% éolien et solaire, c'est juste la part dans le mix électrique. Mais comme on est supposé électrifier un maximum d'usages par ailleurs, bah, autant décarboner l'électricité. Est-ce que c'est un miracle? Dans quelle mesure c'est réplicable ailleurs? C'est là-dessus qu'on va tenter de vous apporter de l'information. Peut-être en préambule, Philippe, je te laisse dire quelques mots sur... Avant tout, comment est-ce que le système, pas seulement d'Australie-Méridionale, mais le système australien est organisé, ce qui va nous permettre de mieux comprendre par la suite comment une expérience comme celle de l'Australie-Méridionale est possible.
Oui, merci. Bon, tu sais, moi, à la base de formation, je suis politologue, alors je m'intéresse aux formes institutionnelles et leur impact sur la prise de décision, entre autres choses. Ça, c'est mon côté politologue. Dans le cas de l'Australie, ce qu'il faut se souvenir d'abord, c'est que c'est un pays fédéral. C'est constitué de six États ou provinces, je ne sais pas trop comment les appeler en français, et un territoire qui n'est pas organisé en État. Bon, comme c'est le cas au Canada, le gouvernement fédéral a un impact relativement limité. Beaucoup de décisions se prennent au niveau local ou au niveau de l'État. En 2009, l'Australie s'est dotée d'une organisation qui s'appelle AEMO, c'est l'Australian Energy Market Operator, donc l'exploitant des systèmes du marché de l'énergie en Australie, qui est en fait une entreprise à but non lucratif, qui est encadré par une loi de l'État. C'est une formule qu'on trouve beaucoup aux États-Unis. Il y a plusieurs territoires qui sont encadrés comme ça. Donc, une structure qui est créée par l'État, qui regroupe l'État et les producteurs électriques qui vont décider ensemble de l'exploitation du réseau. Ce qui est intéressant en Australie, c'est comme c'est un pays fédéral, c'est très décentralisé. Alors, AEMO appartient à 60% à l'État, mais il appartient de façon conjointe à l'État fédéral plus tous les territoires et provinces. Donc, il n'y a personne qui est un joueur vraiment dominant. Parmi les membres, 40% appartiennent donc à l'industrie électrique. Et l'industrie électrique australienne n'est pas très centralisée. Il n'y a pas de très, très grands joueurs vraiment dominants. Alors, c'est pas forcément des petites entreprises, mais il n'y a personne qui domine absolument le marché. Donc, personne ne peut vraiment imposer sa loi. Donc, c'est un système qui est très décentralisé où tout le monde est un peu obligé de travailler ensemble et de se parler, de se coordonner. Ce système-là a été mis en place en 2009. Il chapeaute aussi un certain nombre d'organisations reliées, dont la plus importante est le NEM, qui est en fait l'organisation du réseau de distribution de transport et de distribution électrique et le système de prix, de mise en marché, tout ça, c'est centralisé sous le NEM, qui est administré aussi par AEMO. On peut comparer ça avec, par exemple, le système allemand. En Allemagne, les mots d'ordre viennent beaucoup plus de l'État et en plus, ils s'adressent à une industrie qui est dominée par un petit nombre de très grands joueurs qui, en plus, sont il y a beaucoup d'entreprises intégrées. Il y a des entreprises qui vont produire leur propre charbon et le brûler ensuite pour faire de l'électricité. Alors, la résistance à la transition est importante. En Australie, les producteurs d'électricité ne sont pas des producteurs de charbon, règle générale. Peut-être qu'en fouillant, on trouverait une exception, mais les producteurs australiens trouvent que le charbon, ça coûte très cher, que ça serait plus rentable avec des renouvelables, et ils n'ont aucun espèce de scrupule à dire on va fermer les centrales au charbon, puis les minières qui produisent le charbon, ils se débrouilleront avec leurs problèmes. C'est pas du tout quelque chose dont on se soucie. Donc, il y a une facilité à bouger qui est quand même importante ici. Alors, on peut dire aussi, on pourrait rajouter que la transition en Australie a commencé relativement tôt, notamment l'Australie méridionale était sortie du charbon dès 2016 complètement, et ça a inspiré les joueurs d'AEMO à se lancer dans un grand plan de transition très structuré. Et encore là, l'initiative n'est pas venue vraiment de l'État qui peut subventionner les initiatives, tout ça, mais c'est vraiment l'industrie qui s'est dotée elle-même d'un plan. Ils ont assis leurs ingénieurs, ils ont assis leurs analystes pendant un an, ils ont développé un plan très détaillé à trois niveaux, la production, la distribution, tout ça, avec des échéanciers précis, des goulots d'étranglement ou des problèmes techniques non résolus qui étaient listés et qui se donnaient le temps de régler. Et on dit, on se fonce là, on fonce même si tous les problèmes ne sont pas encore entièrement résolus, on trouvera des solutions en cours de route.
Qu'est-ce qui
Alors,
les
il y a
motivait
beaucoup
initialement?
d'agilité.
C'est la lutte contre le changement climatique, c'est la compétitivité économique des solutions renouvelables. C'était parce qu'il y a 15 ans, les renouvelables n'étaient pas non plus au coût auquel ils sont maintenant. Donc, qu'est-ce qui a donné l'impulsion
Ouais.
politique à ce grand projet?
J'en suis pas absolument certain, mais je crois que le fait que l'énergie au charbon était très très chère, l'électricité coûte très cher en Australie, parce que le charbon est cher, parce que le territoire est grand, parce que la distribution est compliquée, parce qu'il y a peu de population sur un très grand territoire. Donc, on peut dire que les énergies renouvelables sont devenues compétitives plus rapidement que dans d'autres pays à cause de ce contexte-là. C'est clair, en Australie du Sud, c'est l'électricité la plus chère en Australie. Alors, la motivation pour aller vers les renouvelables, qui sont devenues moins chères à partir du milieu des années 2010, était très, très grande.
Bon, je pense que les auditeurs à ce stade se posent pas mal de questions. Peut-être que certains ont commencé à chercher South Australia et des infos. Vous n'en trouverez pas des masses, honnêtement, ou c'est très compliqué. Ce qu'on va vous présenter ici, c'est le résultat de dizaines et de dizaines d'heures de recherche de la part de Philippe et de Damien qui vont accéder à des sources. Voilà, il faut vraiment fouiller. Donc, on vous mâche le travail. Vous vous posez certainement beaucoup de questions de type, ouais, mais bon, ils sont que 1,7 million ou 2 millions, c'est pas réplicable ailleurs. Oui, mais ils ont beaucoup de place, c'est un grand État, donc forcément, il y a assez de vent pour tout le monde, etc. On va y répondre. On va y répondre à tout ça. Je me suis posé les mêmes questions et nous avons des éléments de réponse sans prétendre d'avoir la science infuse. Mais peut-être, Damien, je te laisse peut-être commencer à présenter par l'angle que tu souhaites, mais en tout cas, le genre de questions que je viens de soulever, c'est au programme des 45 prochaines minutes.
Alors, je pense qu'il y a un petit complément peut-être à apporter à ce que vient de dire Philippe. Hein. Donc, toi, Philippe, tu as plutôt parlé de la thématique en fait marché. Mais autour de cette thématique marché, il y a aussi un angle réseau électrique. Et donc, en fait, en Australie, on a plusieurs réseaux en fait, qui sont séparés, mais notamment un gros réseau, donc le réseau NEM, dont tu as parlé, Philippe, qui représente l'essentiel de la population, hein, donc probablement plus de 22 millions d'habitants. Hein. Donc l'Australie, c'est quand même c'est une île continent hein, quelque part. Donc on a, certes, c'est pas un petit pays, hein, on a quand même 26 millions d'habitants. Donc même à l'échelle de l'Europe, c'est quand même une population assez importante. Mais l'Australie, en termes de superficie, c'est quasiment la superficie, enfin c'est même plus en fait que la superficie de l'Europe ou de l'Union européenne. Donc on est vraiment sur un continent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la population, elle est principalement en fait sur les côtes, et notamment sur la côte est. Et donc sur cette côte est, en fait, on a un réseau, le réseau NEM, qui dessert la quasi-totalité de la population du continent. Et donc en fait, quand on va regarder la carte, donc je te donnerai le lien, tu pourras la présenter, hein, sur cette carte, en fait, on voit que la plupart de ces États sont interconnectés via ce réseau NEM. Et puis après, en fait, on a deux États, donc les États sur la côte ouest, l'État à ouest, donc qui s'appelle Western Australia, et l'État du Nord. Donc ces deux États, en fait, eux vivent un peu, ils ont leur propre réseau, en fait, donc ils sont ilotés du reste des autres États. Et parfois, en fait, dans certains cas, ils ont même plusieurs réseaux séparés parce que entre les différentes villes de leur territoire, il y a parfois des distances qui sont tellement importantes, en fait, que ça vaut le coup, en fait, de créer un réseau était trop élevé. Et donc, dans ces configurations-là, on a préféré avoir un réseau, en fait, séparé du reste. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur un continent, mais à la différence de ce qu'on observe en Europe, on a vraiment un réseau qui unifie tous les pays. Eh bien, en fait, on a des formes d'îles électriques, comme ce que nous, on peut avoir dans nos territoires d'outre-mer ou dans certaines îles, donc les îles du Ponant, notamment en Bretagne, qui sont, elles, en fait, séparées du réseau européen. Donc ça, c'est un point important parce que on va y revenir, je pense, sur l'interconnexion qui...
C'est un point important parce que
Ouais, vas-y.
ça rajoute au handicap. Il y en a d'autres des handicaps auxquels est confrontée l'Australie-Méridionale. Effectivement, c'est un réseau peu interconnecté. En plus du fait qu'il y a peu de fleuves à exploiter, je l'évoquais en introduction, donc il y a zéro hydraulique, chose qui en Europe n'est pas le cas, où on a quand même 10-15% d'hydraulique, de moins en moins avec les sécheresses dues au changement climatique. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, l'Australie-Méridionale a ce handicap géographique-là. Et en plus, peu d'interconnexion avec le reste du continent, ce qui, à nouveau, en Europe, notre réseau est beaucoup plus intensément interconnecté.
Je
Tout à
voudrais
fait.
juste préciser, il n'y a pas d'hydraulique en Australie-Méridionale, mais il y en a un peu en Australie dans son ensemble.
Oui,
C'est
bien
à peu
sûr.
près 7 ou 10% de la production électrique. Ce n'est pas très important, mais ça existe.
C'est comme en France, en fait, à peu près, en termes de proportion de la production élec. Donc, on a quand même des caractéristiques qui ne sont pas forcément si éloignées. Donc, il y a une
Vas-y,
caractéristique qui est
Damien,
très
je vais te
différente,
poursuivre.
qui est effectivement la superficie. Hein. Donc, on parle de territoires qui sont immenses, mais qu'il faut contrebalancer parce que voilà, la carte que tu pourras présenter, on voit que le réseau, en fait, il se concentre vraiment sur les parties qui sont habitées, parce qu'on ne va pas construire des réseaux électriques au milieu de nulle part en plein désert. On va construire des réseaux là où la population vit, et en général, elle vit près des côtes. Et donc voilà, donc cet aspect-là, de toute façon on va le développer, hein, où on dit ouais l'Australie c'est immense, il faut se dire que les moyens de production, on ne va pas les mettre en plein désert. Il y a eu beaucoup de projets en fait, hein, où on se disait, donc c'est comme le projet qu'on a pu connaître au niveau du Sahara, donc le projet Desertec, où on se disait, donc eux ils ont aussi un projet Sun Cable, qui visait notamment à approvisionner Singapour. Donc l'idée c'était en gros de faire d'immenses centrales photovoltaïques dans le territoire du nord de l'Australie, pour ensuite avoir un câble de plusieurs milliers de kilomètres qui amène de l'électricité à Singapour. Bon, le projet, pour le moment, je pense qu'il est en échec, parce qu'en fait, c'est pas si simple de construire des centrales en plein désert et de construire des infrastructures aussi importantes qu'un réseau de plusieurs milliers de kilomètres. Donc, souvent, ces projets ont été des échecs, et les projets qui se sont réellement faits en Australie, ben, c'est plutôt des parcs éoliens. Alors, ce n'est pas forcément des petits parcs, ça peut être des parcs de plusieurs dizaines de mégawatts, mais beaucoup, voilà, de petits parcs, en fait, qui sont à une proximité assez relative des villes, hein. Donc, parfois, on peut être à quelques dizaines de kilomètres, mais on n'est pas à 300 ou 400 kilomètres. En général, il y a toujours des habitations à quelques kilomètres de distance des parcs. Et donc, on a eu beaucoup de parcs éoliens. Et concernant le photovoltaïque, ça, c'est quand même une chose qui est assez étonnante. C'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait se dire, ben, en Australie, ils ont de la place. Ils peuvent faire que des installations au sol. Bien, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, hein. Ce qui s'est passé, c'est un phénomène inverse. Les Australiens ont massivement installé du photovoltaïque sur leur toiture. Donc, à la fois les toitures des particuliers et
C'est ça, j'ai
également...
lu une maison sur trois a du panneau photovoltaïque sur son toit.
Voilà, donc ça, c'est pour l'Australie, hein. L'Australie en général, En Australie-Méridionale, on peut être sur, notamment dans certains quartiers, on peut même être sur du 1 sur 2. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'Australie en général, là je ne parle pas de seulement un État, vraiment de tout le pays, a connu un boom énorme du solaire résidentiel et aussi du solaire en toiture, notamment sur les bâtiments industriels. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une très très grosse partie de la production qui est bien sur des terrains artificialisés, donc sur les toitures. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le cas de l'Australie, on a réussi à faire fortement diminuer les prix du solaire en toiture. Donc par exemple, une installation de particulier en Australie, ça coûte aux alentours d'un euro du watt crête. Donc bon, comme ça ne parle pas forcément aux personnes ici présentes, mais pour comparer avec les prix pratiqués en France, en général, en France, une installation de particulier, on la vend à 2, 3 euros du watt crête. Donc, l'Australie, elle ne bénéficie pas que d'un fort ensoleillement. Il y a aussi eu, en fait, par l'énorme développement du solaire, une plus grande maturité, en fait, du marché solaire résidentiel, qui fait que les coûts ont fortement baissé. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des installations particulières à 1 euro du watt crête, qui, en plus, bénéficient d'un ensoleillement qui est très important. Alors, peut-être que je développe plus sur cet aspect ensoleillement, et puis tu auras
Même
peut-être des questions.
en.
Ouais, vas-y.
Oui, bon, il y en a une infinité de questions, mais juste à nouveau un point de repère. Donc la surface de l'Australie méridionale, juste cet état-là, c'est de l'ordre de 1 million de kilomètres carrés. Donc voilà, deux fois la France pour servir une population de 1,7 million. Donc effectivement, on est tenté de dire, ah oui, mais bon, c'est bon, ils ont de la place pour mettre des panneaux solaires, des éoliennes loin des gens et tout. Bah non, c'est pas ce qui est en train de se passer, pour plein de raisons de coûts de raccordement que tu as évoquées. Sur
Mais
l'ensoleillement, effectivement,
il
sur. Vas-y, oui.
faut revenir sur ça, faut revenir sur cette question des déserts, c'est mal compris. Comme Québécois, je comprends peut-être un peu plus. On a plein de régions au Québec qui sont désertes. Bon, c'est pas du désert, c'est de la forêt, c'est de boréal, c'est des arbres. Mais en fait, il n'y a pas de route pour y aller. Il n'y a pas vraiment de population sur place ou très très peu. Alors, comment est-ce que tu amènes une éolienne géante par camion dans un endroit où il n'y a pas de route? Comment est-ce que tu, où est-ce que tu trouves le personnel? Si tu dois aller faire de l'entretien, tu as quelqu'un qui doit parcourir 500 km dans un véhicule hors piste. C'est pas des territoires qui sont exploitables, ça coûte trop cher. Et si on regarde la carte de l'Australie méridionale, où sont situées les installations électriques, ben, même les parcs éoliens sont près des côtes, sont dans les régions habitées, là où il y a des routes. Parce que sinon, il n'y a simplement pas de route pour s'y rendre. Et ce n'est pas des territoires qui sont exploitables. Un désert, c'est un territoire qu'on ne peut pas mettre en valeur. On peut y aller on peut y aller en avion, en hélicoptère, dans des véhicules tout-terrain, mais on ne peut pas construire des installations de grande ampleur là-dedans
Ouais, tout à fait.
sans d'immenses difficultés.
Non, mais je crois qu'on a démontré le point. Effectivement, tu parlais d'ensoleillement, Damien. Justement, une question qui se pose, c'est lorsqu'on dépend à ce point du solaire, c'est les hivers là-bas, je ne sais pas à quoi ça ressemble, donc les hivers là-bas, c'est pendant nos étés ici, donc leur hiver, c'est en juillet. J'imagine qu'ils ont peu d'ensoleillement, alors est-ce que c'est peut-être pas aussi peu que la Suède et l'Europe du Nord, mais quand même assez peu. En plus, on parle du sud de l'Australie et près des côtes, donc vraiment le sud de l'hémisphère sud, quoi, là où il y a des terres émergées. Est-ce qu'ils ont de l'ensoleillement ou pas? Enfin, voilà.
Alors, ouais, c'est vrai qu'on est quand même sur des latitudes qui sont un peu plus faibles que la nôtre. Ce qui fait que pour le solaire, même à Adélaïde, en fait, on a une variation, ce qu'on appelle variation intersaisonnière, c'est-à-dire la production comparée entre l'hiver et l'été, ces variations sont plus faibles qu'en France, parce qu'en fait, en France, on est sur des latitudes qui sont plus élevées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir. Pareil, je t'enverrai une photo et tu pourras montrer la différence, en fait, de production mensuelle entre, par exemple, Adélaïde et Marseille. Ça, c'est un point important, c'est qu'effectivement, ils ont une production solaire qui est plus stable à l'année, et donc ce qui donne un intérêt plus important qu'en France sur cette stabilité. Il y a un autre aspect qui est important, c'est qu'ils ont
Oui,
aussi
mais
une.
pardon, je suis en train de regarder une carte du monde et c'est pas si éloigné de l'équateur en fait. Oui,
Oui, alors
par
c'est
rapport
en
à
fait,
Marseille, c'est pas beaucoup
c'est
plus
ça.
éloigné le sud de l'Australie méridionale. Oui.
En fait, voilà, Adélaïde, c'est à peu
Okay.
près
Mais
du Portugal, c'est le sud de
si tu
l'Australie.
vérifies,
on n'est pas très
Quand on
éloigné, voilà.
vérifie la Srelia méridionale, c'est à peu près le même c'est à peu près le même ensoleillement que le Maroc. Si on mais parce que le sud de l'Australie, on n'est pas habitué à ça, mais le sud de l'Australie, c'est la partie la plus éloignée de l'équateur. Si on remonte dans le nord de l'Australie, on se rapproche de l'équateur, donc les variations jour-nuit sont moins grandes. L'autre aspect qui est important, c'est que c'est un continent qui est quand même très aride. Très aride, ça veut dire pas beaucoup d'humidité dans l'air. Et l'humidité dans l'air, le voile atmosphérique, coupe beaucoup les rayons infrarouges dont les panneaux solaires se servent. Donc, tu as moins de pertes dues au voile atmosphérique. Le problème de Dunkerque, c'est pas seulement que c'est plus au nord, mais c'est que le temps est très humide. Il y a beaucoup moins de lumière rouge et infrarouge qui atteint les panneaux solaires et c'est ce qu'ils utilisent pour produire de l'énergie.
Donc côté ensoleillement, ils sont plutôt alors, avantagés, je sais pas, mais en tout cas, ils sont loin d'être désavantagés,
Clairement, oui.
été
Ils
comme
sont très
hiver.
avantagés, on peut le
Ah,
dire comme ça.
ok. Côté
Après,
vent, est-ce qu'ils
alors,
sont particulièrement dotés
oui également. Donc c'est un pays qui est un fort productible au niveau du vent. Donc c'est, mais aussi en France, on a pas mal de bons sites. Et puis on a aussi un point important, c'est que en fait aujourd'hui en Australie, le seul éolien qu'on a développé, c'est de l'éolien terrestre. Sachant que nous en Europe, on a notamment ben, au Royaume-Uni, on a massivement développé l'éolien en mer, qui présente en fait plein d'avantages, donc un facteur de charge qui est généralement plus élevé, et également une variabilité qui est un peu plus faible que celle de l'éolien terrestre. Et donc, c'est vrai que l'Australie, ils ont des avantages, donc fort, fort ensoleillement, bonne production au niveau du vent, au niveau des éoliennes terrestres, mais il y a des technologies qu'ils n'ont même pas utilisées, alors qu'ils ont aussi un potentiel conséquent. Hein, donc l'éolien en mer, en fait, il y a un très bon potentiel en Australie, tout simplement parce que voilà, ils n'ont pas mis en place les outils pour les développer. Et donc là, pour le coup, on a un avantage par rapport à l'Australie, c'est que nous, on commence déjà à développer de l'éolien en mer, ce qui n'est pas le cas, enfin, on commence à le faire en Australie, mais ils n'ont pas de parc mis en service aujourd'hui. Il y avait peut-être un autre aspect à
On
développer.
pourrait ajouter que le meilleur potentiel en Australie, c'est ouais, le meilleur potentiel pour l'éolien en Australie, en fait, c'est la région, c'est la province de l'Ouest, Western Australia, qui n'est pas reliée au reste du réseau, la région de Perth, ils sont sur l'océan Indien, et comme les régimes des vents partout dans le monde, c'est d'ouest en est, il y a plus de vent à l'ouest qu'à l'est. Donc, l'avantage de l'éolien dans l'Australie du Sud ou sur l'Est, en fait, la disponibilité du vent n'est pas fondamentalement différente de ce qu'on va trouver, par exemple, en Bretagne, qui a aussi un très bon potentiel éolien. Donc, oui, ils ont des bonnes caractéristiques, mais par rapport à France, c'est pas un avantage aussi marqué que dans le solaire.
Voilà. Et puis voilà, il y avait peut-être deux autres
Il y a
éléments.
tellement
Ah,
de questions
bon.
potentielles. Vas-y, Damien, je te laisse
Ouais,
enchaîner,
je
je suis
suis désolé, j'ai
désolé.
l'impression qu'il y a un petit décalage, donc à chaque fois je parle et j'ai l'impression de te couper la parole. Par rapport à cette question, la variabilité, ce qu'il faut regarder, c'est pas seulement la variabilité de la production solaire, de l'éolien, mais également la variabilité de la consommation. Et donc là, l'Australie a une autre caractéristique importante, c'est qu'il y a assez peu de variabilité, là aussi, au niveau mensuel, sur la consommation. C'est-à-dire qu'on a des étés qui sont très chauds, où on va utiliser beaucoup de clim, et les hivers sont relativement tempérés, ce qui fait que peu de gens vont chauffer. Et en fait, quand on regarde vraiment les consommations à l'échelle annuelle, on n'a pas une aussi forte variabilité qu'on peut avoir en France. Et ça, c'est aussi un point assez important, parce que je pense que beaucoup de personnes n'ont pas vécu soit en Australie, soit en Nouvelle-Zélande, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué quand je suis allé dans ces pays-là. C'est qu'on ne chauffe pas. Dans beaucoup de maisons, en fait, on ne chauffe pas l'hiver. Donc, c'est, bah, franchement, c'est vraiment étonnant. C'est-à-dire qu'on peut être dans une maison
C'est
où il fait 8 degrés,
significatif.
il fait 8 degrés, mais pour supporter les 8 degrés, on met un manteau. Et ça dérange personne. Alors, bon, il y a des personnes qui, effectivement, vont installer un chauffage, mais ce qui se passe aussi en Australie, c'est que les maisons sont assez peu isolées, hein, donc c'est aussi le cas en Nouvelle-Zélande. Donc, quand on installe un système de chauffage, on se retrouve avec des factures très élevées, donc, surtout si on a un chauffage électrique, parce que, comme l'a très bien expliqué Philippe, l'électricité est très coûteuse. Sinon, on doit installer un chauffage au gaz. Il n'y a pas forcément de réseau de gaz. Le chauffage, ce n'est pas forcément simple, en fait, en Australie et en Nouvelle-Zélande, parce que ce n'est pas dans la culture. sais pas si tu voulais ajouter
On
quelque chose.
a donc une population de warriors, donc ça aide. Ça aide effectivement à surmonter certains obstacles avec une courbe de consommation relativement stable. Il y a plein de questions qui se posent encore, hein, je ne sais pas si je dis un peu pêle-mêle, mais donc en 15 ans, ils sont sortis du charbon, l'Australie méridionale, hein, pas l'Australie. Ils sont sortis du charbon, ils sont passés de 0% renouvelable à 70%, et ce seulement éolien terrestre et solaire. Ils gardent du gaz qui, j'imagine. Alors voilà, quel est peut-être. À quoi sert le gaz aujourd'hui? Bon, j'imagine à pallier la variabilité de l'éolien et du solaire. Est-ce que ça fournit aussi une énergie de base? Enfin, voilà, le rôle que joue le gaz dans ce mix énergétique-là aujourd'hui, qui est forcément très différent du rôle que jouait le gaz il y a 15 ans.
Alors, c'est vrai qu'effectivement, dans beaucoup d'États australiens, on a une forte présence du charbon qui, pour le coup, a tendance à fonctionner en base. Alors, quand on dit en base, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de modulation. Hein. Donc, on essaie, en fait, pour que la centrale soit le plus rentable possible, il vaut mieux produire à la puissance maximale tout le temps. Mais quand on a une forte proportion de EnR qui s'intègre au réseau, il y a un intérêt même pour. Le producteur d'électricité au charbon de moduler. Mais ça a un coût et donc on ne va pas le faire tout de suite. Voilà. Donc les centrales à charbon, elles marchent plutôt ben, un peu comme les centrales nucléaires françaises en fait, elles préfèrent fonctionner en base. Et donc ben, quelque part, quand on va beaucoup développer les ENR, si ces centrales n'arrivent pas à moduler suffisamment vite, ben elles vont finir par perdre en rentabilité et donc on va finir par les fermer. Et donc la raison de la fermeture des centrales à charbon en Australie méridionale, c'est pas seulement un acte écologique, hein, c'était aussi en fait un intérêt économique, c'était qu'au bout d'un moment en fait le charbon n'était plus rentable. Et donc pour le remplacer, ce qu'on a mis en place, c'est des centrales à gaz, donc des OCG, hein, donc des open cycle, donc des centrales en cycle ouvert. Et ces centrales-là, elles ont pour particularité en fait de pouvoir moduler très rapidement pour suivre la production ENR. Et donc effectivement, là aussi au niveau des centrales, on va avoir en fait des centrales de différents types qui vont être plus ou moins adaptées à la gestion d'un système avec beaucoup d'énergie variable. Et donc voilà, sur l'Australie méridionale, il y a eu un fort changement avec la disparition totale des centrales à charbon qui fonctionnaient en base, remplacées par des centrales à gaz qui, elles, fonctionne en cycle ouvert. Pour autant, voilà, là aussi, il faut bien nuancer les débats. C'est que très souvent, les personnes qui vont parler en fait du gaz pour faire le backup des ENR, elles aiment bien raisonner en puissance. C'est-à-dire, ouais, mais ce pays, il a installé tant de gigawatts de centrales à gaz, donc en fait, c'est bien la preuve qu'on ne sort pas du gaz. Là, ce que tu pourras présenter, pareil, sur ta vidéo YouTube, c'est de montrer en fait comment dans cet état, donc l'Australie méridionale, comment en fait les fossiles se font remplacer, donc les énergies fossiles se font remplacer depuis 15 ans, sans qu'en fait on voit d'opportunité pour qu'elles restent en fait. C'est-à-dire, certes, à terme, quand l'Australie méridionale aura terminé sa transition, il y aura toujours besoin d'un peu de gaz, mais dans les projections qui sont présentées, lorsqu'elle aura atteint en fait le 100% ENR net, le gaz représentera peut-être quelques pourcents de la production d'électricité dans l'État. Pour rappel, voilà, en France, la production
Alors,
d'électricité
100%
fossile,
de
c'est
ENR
50%.
net, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Je
Ouais,
pense que.
on va préciser, ouais.
Ouais.
Voilà.
Expliquer ce que c'est que 100% ENR net, parce que c'est pas. Je comprends moi, mais bref.
Alors, en fait, l'Australie méridionale, elle fait partie du réseau NEM. Donc ça, c'est l'image, là aussi, on va présenter. Donc le réseau NEM, c'est tout le réseau électrique qui alimente la côte est de l'Australie. Mais comme l'a expliqué Philippe, en fait, c'est un réseau qui est pas très... Il n'a pas, en fait, la solidité qu'on peut avoir en Europe, où nous, en fait, on dispose de plusieurs interconnexions, parfois plusieurs interconnexions avec au sein des échanges entre deux pays. Là où, du côté de l'Australie méridionale, il y a une seule interconnexion synchrone. Donc je précise, synchrone, ça veut dire en fait c'est on va utiliser du courant alternatif Au besoin, on précisera plus tard parce qu'en fait, il y a deux types de liaisons. Il y a des liaisons dites HVDC qui fonctionnent en courant continu et des liaisons en alternative. Donc, c'est les fameux poteaux qu'on voit sur le bord de l'autoroute, hein, donc les fameuses lignes 400 kV qu'on peut voir. Eh bien, voilà, eux, ils ont une seule liaison synchrone. Et ça a quand même une importance, c'est que, en fait, quand cette liaison synchrone tombe, ce qui arrive régulièrement, en fait, parce qu'il y a des tempêtes, il y a plein de raisons liées à la maintenance, eh bien, l'État d'Australie-Méridionale se retrouve en îlotage. Alors, pourquoi il se retrouve en îlotage? Eh bien, parce que même si on a toujours une liaison en courant continu, le courant continu, ça ne permet pas d'assurer la synchronicité avec le réseau. Et donc là, il y a un enjeu de stabilité du réseau qui doit être géré non pas au niveau du réseau NEM, mais au niveau de ce seul État qu'est l'Australie-Méridionale. Et donc là, c'est un sujet, je pense, qu'on va développer aussi, peut-être avec Philippe, c'est que quand on a ce genre de rupture de ligne, eh bien, l'État se retrouve en îlotage et parfois il se retrouve avec une production d'énergie renouvelable variable, donc PV et éolien, qui atteint des taux très élevés. Donc c'est un événement qui est arrivé, donc je pense c'était en novembre 2022 à de mémoire. En novembre 2022, on a eu donc une déconnexion de cette seule ligne synchrone pendant une ou plusieurs semaines. Et à un moment donné, en fait, on s'est
Ah oui, quand
retrouvé
même.
avec un pic de production d'énergie renouvelable variable qui a dépassé les 90%. Et là, c'est quand même une réponse qui me paraît significative à certaines objections qu'on peut entendre. Alors, je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent l'ont déjà entendu, mais on a souvent entendu le discours de oui, mais quand on met beaucoup d'énergie renouvelable dans un réseau, celui-ci risque de s'écrouler parce que les énergies renouvelables variables, ça ne permet pas de maintenir la stabilité du réseau. Voilà. Toujours cette notion de stabilité qui revient à chaque fois. Ce qu'on a pu voir ici, c'est que une coupure d'une semaine ou plus, un taux de NR maximum supérieur à 90%, le réseau ne s'est pas écoulé. Tu voulais peut-être parler, Philippe, je
En
t'ai
fait,
coupé.
en Australie du Sud, ils ont eu même plusieurs épisodes où tu avais plus de 100% de renouvelables. Je crois qu'il y a eu un épisode à 235% à un moment donné, qu'ils ont exporté tout ce qu'ils pouvaient vers la province voisine et le reste a simplement été perdu parce qu'il n'y en avait pas l'usage. Sur le réseau, sur la configuration du réseau, il faut comprendre, c'est comme un peu comme un chemin de fer, hein. Tu as une succession de provinces ou de petits États le long de la côte. Chaque État est relié avec son voisin immédiat. Et l'Australie de Méridionale étant au bout du réseau, ils n'ont qu'une connexion avec un seul État voisin. Donc, effectivement, si la connexion est perdue ou si elle est insuffisante, ils sont obligés de s'adapter. Une des façons dont ils s'adaptent, c'est pas seulement par le gaz, on oublie le rôle des batteries qui est de plus en plus important en Australie, en général, en Australie-Méridionale en particulier. L'Australie-Méridionale a été la premier endroit au monde, en fait, où avoir une grosse batterie de 100 MW, c'est la batterie de Hornsdale qui a été construite par Tesla, qui est rentrée en service à la fin de 2017. Et le truc s'est immédiatement avéré très rentable. Je crois que ça a déjà été agrandi deux fois, cette installation-là. Et le mois dernier, il y a eu un appel d'offres pour des nouvelles batteries en Australie. Tout le monde s'est précipité là-dessus. Il y a une ruée vers les batteries qui est absolument immense. Et ça aussi, ça va réduire la place du gaz. À vrai dire, il y a même question que la place du gaz va devenir tellement petite. Il va falloir qu'on se laisse du temps pour parler des travaux de Osborne. Osmond, pardon. Mais la place du gaz va devenir tellement petite qu'en fait, on pourrait cesser d'utiliser du gaz fossile complètement et d'utiliser du biogaz, du gaz renouvelable produit à partir de déchets. Parce que les besoins vont être tellement faibles qu'on pourrait les combler. Avec cette filière-là.
J'ai pas
C'est
répondu à ta
ça
question du
l'idée,
coup.
c'est ces réseaux futurs avec un auto. Vas-y Damien, je sais même
Ouais,
plus de quelle
juste.
question
Ouais, parce que tu t'avais posé une
on a
question et j'y ai
traité.
pas
Mais vas-y,
répondu.
vas-y.
C'était sur le 100% Internet, qu'est-ce que ça signifie? Donc après, je suis parti dans un développement sur le réseau. Eh bien voilà, c'est que
Oui,
pourquoi,
pardon. Bah, c'est
pourquoi,
oui, parce qu'on exporte ce qu'on importe. Mais vas-y, vas-y.
mais pourquoi on parle de net? C'est que en fait, 100% Internet, ça veut dire que il y a des moments où cet état va utiliser du gaz, mais en moyenne à l'année, il va produire plus que ce qu'il consomme. Donc c'est pour ça qu'on parle de 100% ENR net, parce que au global, voilà, en termes de balance, il va produire plus que que ce qu'ils consomment. Donc on est sur du 100% Internet, mais en fait la thématique est la même en France. C'est-à-dire quand on parle de 100% Internet, il faut voir aussi qu'est-ce qu'on met derrière, parce que la France, elle est également interconnectée avec l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, et donc en fait ce qu'on produit, nous on est exportateur net d'électricité, hein, donc en général hein, sur les 20-30 dernières années, et donc on est exactement dans la même configuration que l'Australie méridionale. Je sais pas si ça répond bien.
Si, bah, totalement. Je m'attarderai bien encore un petit peu sur le rôle des batteries, surtout que là, alors, il est 17 h à l'heure où on enregistre et la nuit commence à tomber. J'espère qu'on va pas être coupé, faute de soleil. Mais espérons que. Non, mais voilà. Blague à part, la question qui se pose, comment ils font en Australie méridionale quand il y a peu de vent et que c'est la nuit et que les besoins sont importants? Alors, il leur reste 30% de gaz dans leur mix en moyenne sur l'année, mais ils veulent s'en débarrasser aussi. Donc, j'imagine que le gaz aide à ce jour, dans les cas où il fait nuit et il y a relativement peu de vent. Alors, j'imagine que sur un état grand comme ça, il n'y a pas de moment où il y a zéro vent partout. Mais voilà, peu de vent. Comment ils font?
Tu vas enchaîner, Philippe, ou je réponds?
Vas-y, vas-y.
Ça marche. Ouais, parce que je pense que là, en fait, pour répondre à cette question, c'est l'étude de David Osmond. Alors, moi, j'ai pas le bon accent pour le prononcer son nom. Philippe, vous penserez avec moi. Mais donc, c'est un ingénieur australien qui a développé, en fait, un modèle assez simple hein, de l'Australie. Et lui, ce qu'il a essayé de faire, en fait, pour justement un peu vulgariser sur cette thématique hein, de qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent, pas de soleil, eh ben, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les consommations. Sur pas, je pense un pas de temps peut-être de 30 minutes ou 1 heure, donc les consommations à chaque instant de l'Australie. Et ce qu'il fait, c'est qu'il essaie dans son modèle, en multipliant en fait la production éolienne et photovoltaïque de l'Australie, de voir comment ça peut corréler. Donc lui, en fait, ce qu'il se projette, enfin, ce qu'il fait dans son modèle, c'est que il imagine l'Australie telle qu'elle est aujourd'hui, hein, donc avec la même consommation d'électricité. Comme je disais, il prend des données réelles, donc il prend les données d'OpenMem, et il s'imagine ce qu'aurait été l'Australie si, des années auparavant, elle avait vraiment misé à fond sur les ENR et avait, par exemple, 3 fois plus d'éolien, alors je dis des chiffres un peu au hasard, 3 fois plus de PV, etc. Et arriver en fait à produire
Si tu
100%.
veux, je peux intervenir. Si je peux revenir avec des chiffres un peu plus réels, il a imaginé un système qui fonctionnait avec 60% d'éolien et 45% de solaire. Ça fait 105%. Il y a un peu de redondance, il y a un peu de. Et c'est prévu comme ça. Et ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il prend le. Il a accès, lui, aux données météo du NEM, parce que c'est un ingénieur-là. Alors, il sait exactement telle quantité d'éolien, ça va se correspondre à tant de production électrique au bout du compte, dépendant de la météo, tout ça. Alors, il prend les données météo réelles, en temps réel, de l'Australie, cette semaine, combien on a eu de soleil, combien on a eu de vent, et il prend les données de consommation réelle, combien on a consommé à telle heure en Australie, et il dit, si on utilise mon réseau idéal, qui est 100%, 105% renouvelable, en fait, quel pourcentage de couverture est-ce que j'ai? Quel pourcentage du temps est-ce que l'alimentation est assurée? Et il fait ça depuis un peu plus de 2 ans. Et en moyenne, le réseau est couvert 99% du temps. La plus faible couverture qu'il y a eu sur 2 ans, c'était 89%. Qu'est-ce qui arrive quand le réseau est couvert seulement à 89% par l'énergie renouvelable? C'est là qu'on active le gaz. C'est pour ça que ça prend une réserve de gaz. Mais dans son système, le gaz est activé tellement peu de temps que toutes les usines au gaz qu'on garde en réserve, beaucoup de capacité en gigawatts, produisent très peu d'énergie. Alors le facteur, dans son système, son système qu'il a imaginé, le facteur de charge des usines à gaz est de seulement 3%. ces usines-là servent, ont un rôle de backup qui est crucial à certains moments, mais en fait, elles servent très, très peu. Et à 3%, justement, on peut parfaitement imaginer qu'on n'utilise pas du gaz naturel fossile, mais qu'on utilise du gaz renouvelable qu'on a récupéré là, par biométhanisation, des choses comme ça. Si on voulait faire fonctionner tout le réseau comme ça, ce serait impossible, mais pour couvrir 3% des besoins, oui, c'est tout à fait envisageable. Donc, c'est un peu ça qui a fait comme travail. Qui est très intéressant. Évidemment, le réseau, on n'en est pas encore tout à fait là. On est rendu à 72% de renouvelables en Australie-Méridionale. Pour l'ensemble de l'Australie, c'est plus près de 32 ou 35%, mais ça progresse vite. Mais ça montre ce qui est possible. Osman, c'est aussi amusé. Ah oui, dans son système, la part de l'hydraulique est de seulement 7,1%. Ça joue très, très peu de rôle. Finalement, tout est couvert par et il sert de l'hydraulique non pas comme énergie de base, mais seulement comme backup. Donc, quand il manque un peu de renouvelable, c'est là qu'il active l'hydraulique et les barrages restent pleins, il reste de l'eau parce qu'on les vide pas en permanence. Et il y a d'autres choses comme ça. Il y a peut-être d'autres éléments là, qui ont plus attiré ton attention, Damien. Mais c'est un peu ça le truc. Et ce qui est amusant, c'est qu'Osman fait cet exercice-là chaque semaine, publie à chaque semaine. Il dit, la semaine passée, on aurait été couvert à 100%, on aurait été couvert à 98,6%. Et il publie des graphiques là, à quelle heure il y a des trous. Il montre la couverture et il est assuré. Fait qu'en fait, c'est très, très faisable.
Et je ne pense pas qu'on ait mentionné un point important, c'est que dans les hypothèses que prend David Osmond pour son modèle, donc effectivement, il va multiplier la production photovoltaïque et éolienne d'un certain niveau pour en fait atteindre, enfin, voire même dépasser la consommation d'électricité. Et donc ça, c'est quelque chose de volontaire, c'est que dans ses calculs, pour avoir un optimum économique, la production d'énergie renouvelable variable doit être supérieure à la consommation. Parce qu'en fait, c'est plus rentable d'avoir une éolienne dont on va écrêter une partie de la production. Et l'écrêtement, il peut être assez important. Hein. Au niveau annuel, ça peut être un écrêtement de 10%, voire même de 15%. Mais c'est plus rentable de perdre cette production que d'avoir un système de stockage qui, lui, coûtera encore plus cher. Et également, dans son modèle, il intègre du stockage, mais quelle quantité? Lui, il intègre seulement en fait 5 heures de stockage batterie. Ce qui représente dans son modèle 120 gigawattheures, donc là je parle vraiment en énergie, et un peu plus d'une vingtaine de gigawatts. Donc le stockage, c'est toujours un point important parce que chaque fois j'ai des commentaires qui me disent ouais, mais là tu parles en gigawatts, là tu parles en gigawattheures. Il y a deux grandeurs quand on parle de stockage. Il faut à la fois parler de la puissance auquel peut aller l'équipement, mais également parler de la quantité d'énergie que cet équipement peut stocker. Il faut les deux éléments. On ne peut pas juste se contenter d'un élément, même si voilà, pour une batterie, en général, la capacité de stockage d'une batterie à puissance maximale, elle est d'une heure pour notamment les batteries de véhicules électriques à 4 à 5 heures, mais ça, c'est vraiment les plus grosses batteries, pour des questions de stockage stationnaire qu'on évoque justement dans l'étude de David Osmond. Et donc voilà, 5 heures de stockage, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Ben, globalement, ce qu'il propose là, c'est beaucoup moins que ce qu'il va falloir mettre en place pour électrifier la totalité de nos véhicules. Donc en fait, 5 heures de stockage est très faible par rapport à l'enjeu de la mobilité électrique qui lui présente un facteur en fait qui est peut-être en ordre de grandeur, je donne des chiffres un peu au hasard, mais c'est en ordre de grandeur, on est quand même au moins sur un facteur 10 entre ce qui est nécessaire dans ce 5 heures de stockage pour l'électricité et le besoin qu'on pourrait avoir pour électrifier l'essentiel de notre mobilité.
Ouais. On pourrait rajouter que ces 5 heures de stockage valident entièrement les travaux qui ont été faits ailleurs dans le monde, par exemple Jacobson aux États-Unis ou Breyer en Finlande. Quand ils développent des systèmes 100% renouvelables, ils étudient différents scénarios, ils arrivent à la conclusion que 5 heures de stockage couvrent à peu près 100% des besoins. Il arrive à des chiffres très très près de ceux d'Osmond, mais c'est amusant de voir que Osmond, en se basant sur des données australiennes réelles, tout ça, arrive à peu près au même résultat et les valide.
Donc voilà, pour préciser, 100% renouvelable, on entend éolien, solaire, hydraulique lorsque c'est disponible, mais c'est quand même souvent le cas. Gaz renouvelable, tu l'évoquais, même si c'est en petite quantité pour, on va dire, pallier la variabilité du soleil et du vent, et donc allumer à ce moment-là les centrales à gaz renouvelables, peut-être aussi un peu d'autres formes de biomasse que le biogaz. Mais bref, on voit un peu les choses se dessiner. De quoi est-ce qu'on n'a pas parlé? Bah, dans quelle mesure on peut s'en inspirer pour le reste du monde? Alors, est-ce que vous voulez vous attarder encore un petit peu sur le fonctionnement de l'Australie-Méridionale ou d'autres sujets, des sujets dont on n'aurait pas parlé sur cet état-là?
Ouais, toujours un petit élément sur l'étude de David Osmond.
On peut...
Vas-y, vas-y.
Ouais. Justement, pour revenir sur Osman, il disait que son analyse, ses résultats plus près, il dit qu'à peu près 11% de l'énergie produite par l'éolien et le solaire va en réalité vers le stockage de batteries. Et que le déchargement des batteries, en fait, l'appel de puissance sur les batteries, répond à peu près à 10% de la demande. Alors, en fait, la production en temps réel, si on veut, du solaire et de l'éolien, répond à peu près à 90% de la demande. Donc, même s'il n'y avait pas de stockage, on répondrait à la demande la majeure partie du temps. On peut ajouter aussi que Osman s'est pas du tout intéressé à la gestion de la demande, ce qu'on peut faire pour convaincre les citoyens et les entreprises de consommer moins à certaines heures qui sont critiques. Il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dedans, dans le monde. Et dans le système de Haussmann, on n'a même pas besoin de recourir à cette technique-là. Il balance son système 99% sans avoir à faire appel à ce genre de stratégie. Alors, on peut imaginer que pour le petit pourcent qui manque, ça serait possible de le gérer par la gestion de la demande aussi.
Et donc ça, c'est une
Tiens,
hypothèse qui est très
pour revenir
conservatrice, hein.
là-dessus, mais est-ce que vous avez connaissance de mesures de gestion de la demande? Bon, on a une population qui manifestement ne chauffe pas trop, donc ça aide. Mais est-ce que rien que de nos jours, il y a déjà besoin par moment de recourir à je sais pas, des délestages, rationnements ou quoi?
Gestion de la demande, c'est pas des délestages, c'est soit qu'on va demander durant les périodes de crise aux citoyens de consommer moins, ça marche plus ou moins bien, ça va marcher une fois dans l'hiver, et puis après ça, les gens s'habituent. Mais en général, la méthode qui est retenue, c'est il existe des ententes. On l'a chez EDF aussi, on l'a au Québec, des ententes avec des industries fortement consommatrices. Et la compagnie électrique va avertir, voici, on s'en va vers un manque de production d'électricité. Pourriez-vous arrêter votre production pendant les 24 prochaines heures, par exemple? Et il y a des ententes à l'avance qui prévoient des dédommagements. Je me rappelle plus quel nom ça porte en France. Damien, tu t'en souviens peut-être,
L'effacement.
mais
Ouais,
ces
oui,
ententes-là,
l'effacement.
Voilà. Mais ces ententes-là sont signées à l'avance. Ils sont mobilisés une fois de temps en temps. Les citoyens sont pas trop au courant de ça parce que ça se passe à un autre niveau. Mais on peut gérer. En 2022, où il y a eu tant de problèmes de production, je sais qu'on a fait appel à ces ententes-là assez souvent.
L'effacement, notamment l'effacement industriel.
Exactement, c'est
Non,
ça.
peut-être. Alors,
Voilà.
je veux bien quand même qu'on prenne un peu les dernières minutes qu'on a pour. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon de cette expérience? On pourrait encore développer sur le cas de l'Australie-Méridionale. Bon, je sais pas, peut-être Damien, je te laisse peut-être dans ta vision. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre, par exemple, pour un cas comme la France, les leçons qu'on peut en retenir?
Alors, c'est vrai que pour la France, moi, le principal enjeu que je vois, c'est notamment pour les zones non interconnectées, donc les territoires d'outre-mer, les îles du Ponant, donc toutes ces zones aussi, la Corse, hein. Donc, bon, la Corse, elle est connectée, mais on la met quand même dans le statut ZADANI, hein, donc zone non interconnectée. Et donc, ces leçons-là, elles sont vachement intéressantes, parce que sur ces territoires d'outre-mer, ou la Corse, ou les îles du Ponant, en fait, on utilise énormément de moyens de production fossiles. On parle quand même de territoires qui accueillent plusieurs millions d'habitants, hein. C'est pas non plus des petites zones, hein. Quand tu prends l'ensemble des Outre-mer, c'est plus que la population d'Australie-Méridionale, en fait. Et dans ces zones-là, on a assez peu développé le photovoltaïque et l'éolien. Et aujourd'hui, on a un plan, en fait, donc, qui provient donc, de la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc de l'État, mais également d'EDF SEI, qui vise le 100% énergie renouvelable dans ces territoires à horizon 2030. Mais ce 100% ENR, ce n'est pas de l'éolien, du photovoltaïque. C'est majoritairement du biodiesel. Donc du biodiesel qui va être produit peut-être par du soja ou voilà, donc plutôt par des techniques agricoles, sachant que
C'est bof.
c'est bof, voilà, effectivement, en termes d'emprise au sol. Aujourd'hui, à ma connaissance, peut-être que quelqu'un pourra me détromper en commentaire, à ma connaissance, il n'y a pas de plan vraiment très précis sur la provenance de ce biodiesel. Donc il y aura une partie qui sera produite effectivement sur les territoires d'outre-mer, mais ce qui implique des enjeux potentiellement sur la déforestation, hein, parce qu'il faut des champs pour produire ce biodiesel, ou sinon des importations d'autres pays où on peut aussi avoir cet enjeu déforestation. Donc pour ça, il y a des labels qui sont impliqués, mais moi, ce qui me pose vraiment question, c'est, ben, je pense qu'il y a quand même un enjeu de conserver du biodiesel, ou en tout cas, voilà, c'est comme en Australie-Méridionale, on en parlait avec Philippe, on conservera toujours une part de gaz ou en tout cas de biocarburant, mais il faut que celle-ci soit le plus limitée possible parce qu'on sait que c'est la partie qui est la plus difficile à produire et qui a le coût le plus élevé. Mais là, ce qui est prévu d'ici 2030, ce n'est pas de produire 2-3% de l'électricité. Là, on parle de plusieurs dizaines de pourcents de l'électricité sur ces îles. Et moi, en fait, l'inspiration que j'ai, c'est que pour ces îles, ben, pourquoi on ne pourrait pas essayer de faire comme ce qu'on fait en Australie-Méridionale? Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul exemple, hein, parce que on pourrait parler en fait d'autres cas, donc d'autres îles, hein, donc, que ce soit les îles Féroé ou même en Australie, on a plusieurs îles au nord de la Tasmanie où on a mis en place des systèmes avec des éoliennes, des panneaux solaires et des batteries et ce qu'on appelle des compensateurs synchrones. Donc ça, c'est pas un sujet qu'on a beaucoup développé, mais en gros, c'est tout un tas de technologies qui sont aujourd'hui disponibles et qui permettent de maintenir la stabilité d'un réseau, même lorsque celui-ci comporte beaucoup d'énergie renouvelable variable. Et donc, nous, dans nos zones non interconnectées, on a un peu cette défiance vis-à-vis des énergies renouvelables variables, une défiance qui est tellement présente que on a inscrit dans notre PPE, donc dans notre, quelque part, dans notre cadre légal et réglementaire, une limitation de la puissance instantanée. C'est-à-dire que on ne peut pas produire plus de 45% ENR instantané. Si on le fait, en fait, le producteur, il va voir sa production écrêtée. Mais pour une raison purement légale et qui n'a rien à voir en fait avec la technique. Probablement au niveau technique, on pourrait faire mieux. On pourrait aussi mettre en place des mesures pour faire mieux. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas parce que la réglementation ne le permet pas. Et donc aujourd'hui, on a une limitation à 45% en production ENR variable instantanée, qui va monter au fur et à mesure à 55%, et qui pourrait, si EDF SEI le souhaite, monter à 100%. Mais ça limite beaucoup le développement des énergies renouvelables variables, et quelque part, ça renforce cette volonté d'aller vers le biodiesel.
Super, déjà très intéressant. Et en ce qui concerne la France hexagonale, il faut plus dire métropole, ça fait un peu colonialiste, ou n'importe quel autre pays d'ailleurs. Alors, mais si on se focalise sur la France, bah, pourquoi pas avoir un scénario RTE où on se dit, bah, attendez, ils sont bien arrivés, nous aussi on n'a qu'à faire 70% éolien et solaire en 15 ans et on n'en parle plus, quoi. Ou n'importe quel autre pays se dise, bah, écoutez, on va se fixer le même objectif et on y va. Enfin, qu'est-ce qui empêche d'être aussi ambitieux.
Ça, c'est la grande question. En fait, c'est essentiellement politique, hein. C'est des choix politiques. Parce que l'exemple australien montre que techniquement, il n'y a pas vraiment d'obstacle. L'obstacle en France est politique. On ne veut pas aller là. Les processus de décision sont très, très lents et très centralisés. Il y a probablement une relation entre les deux. Et on voit qu'en Australie, ils ont un système de décision qui est extrêmement décentralisé, qui contient une foule d'acteurs, et ils bougent très, très vite. Quand ils ont décidé d'appliquer les leçons de l'Australie méridionale à tout le pays, ils ont réuni, j'ai dit, ils ont réuni tous leurs ingénieurs et tous leurs analystes pour créer un plan complet jusqu'en 2030 de comment ils allaient s'y prendre. Mais ils ont commencé à se réunir au début de 20, 2021. Ils ont publié le plan en décembre 2021 et ils ont commencé à l'appliquer en janvier suivant. Et à chaque mois, il y a des nouveaux appels d'offres pour des éoliennes, des parcs de solaires, des parcs de batteries. Il y a un immense appel d'offres de batteries le mois dernier et ils foncent. Et simplement, ils foncent, ils se donnent pas de limites. Ils se donnent de limites arbitraires de 45%, comme disait Damien ou d'autres. Mais c'est des barrières intellectuelles, c'est pas des barrières technologiques. Les barrières technologiques n'existent plus, en fait.
Damien, des
Ouais, pour moi,
réactions,
il y a quand même une petite
compléments?
précision importante aussi hein, sur le cas de l'Australie qu'on n'a peut-être pas tant évoqué, enfin Philippe l'a un peu évoqué, c'est que dans ce pays, on a un lobby pro-fossile qui est extrêmement puissant. Nous, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit chez nous en France, hein. Les discours sont un peu plus subtils en France, hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une désinformation massive. Elle est très massive en France sur les énergies renouvelables. Et c'est pour ça que l'exemple australien, je trouve qu'il est très intéressant parce qu'il permet de répondre à beaucoup d'éléments de cette désinformation. Mais en Australie, la désinformation, elle est vraiment produite par des industriels miniers du charbon, par énormément aussi de producteurs de gaz, de pétrole, qui ont un poids considérable dans ce pays. Mais ce qui est intéressant dans ce pays, c'est que la structure que Philippe a décrite, que ce soit l'AEMO ou le marché de l'électricité tel qu'il est présent en Australie, fait que malgré la désinformation, qui d'ailleurs a des conséquences, c'est-à-dire cette désinformation, elle implique la mise en place de politiques qui sont pro-fossiles et anti-UNR au niveau de certains États australiens. Et donc, qui, eux, vont chercher à mettre en place des réglementations pour limiter le développement des UNR. Mais d'un autre côté, vu qu'on est dans un système où le marché va prédominer, si l'alternative fossile, elle n'est pas rentable, le marché va dire on ferme la centrale à charbon, parce qu'elle ne fonctionne pas. Il vaut mieux mettre des parcs éoliens ou des batteries. Et donc, c'est aussi la même chose qui se passe au Texas, dont on aurait pu prendre un exemple, où, pareil, on a un marché, enfin, quelque part, qui est assez libéralisé, où on voit l'éolien et le photovoltaïque se développer à une vitesse très massive, et où l'État est presque tenté de subventionner les énergies fossiles pour éviter qu'elles se fassent remplacer par des énergies qui sont plus compétitives au niveau du marché.
On pourrait dire qu'il y a la même dynamique au niveau du nucléaire. Il existe un lobby nucléaire en Australie aussi. Et le potentiel nucléaire semble important parce que c'est un des plus gros producteurs d'uranium au monde. Mais en fait, l'équivalent australien du CNRS, qui est le XIRO, sort régulièrement des avis comme quoi ça serait pas rentable. L'industrie elle-même est convaincue que ça coûterait plus cher que la voie renouvelable qu'elle utilise actuellement. Alors, écoutez, le nucléaire, on n'est pas intéressé. C'est plus compliqué, c'est plus long, c'est plus cher. Pourquoi est-ce qu'on irait là? Parce que c'est des petits producteurs, en plus, qui n'ont pas envie d'investir des milliards de dollars dans un seul gros projet. C'est plus facile de gérer un portefeuille de petits projets qu'on développe au fur et à mesure. Donc, le gigantisme du nucléaire joue un peu contre lui, surtout dans un pays qui est relativement petit, qui a relativement peu de population.
Et puis là, dans un cas comme l'Australie méridionale, et peut-être un jour l'Australie dans son ensemble, mais bon, le nucléaire, c'est fait pour fonctionner en base. Et là, la base est quand même assez rétrécie, quoi. Donc, il reste 30% à grappiller en Australie méridionale. Et ce n'est pas un 30% qui est stable, c'est un 30% où il faut s'insérer dans les trous quand il y a peu de vent et peu de soleil, et ça, le nucléaire n'est pas tout à fait fait pour ça.
Le problème du nucléaire dans les petits marchés, on l'a vu récemment en Finlande, la nouvelle centrale, le nouvel EPR finlandais est tombé en panne soudainement au début du mois de novembre. C'est des choses qui arrivent, mais le problème, c'est qu'il représentait un bloc de 1,6 gigawatts, quelque chose comme ça. Et le réseau finlandais, qui est pas si grand que ça, doit donc constamment garder en réserve 1,6 gigawatts d'énergie au cas où la grande centrale tomberait en panne. Comme cette grande centrale-là représente, je me rappelle plus exactement, mais 20 ou 30 % de la consommation d'énergie en Finlande, ça veut dire qu'on doit garder 20 ou 30 % d'équivalent de consommation d'énergie en réserve. Et ça, finalement, c'est souvent des centrales au charbon ou au gaz qu'on garde chaud pour pouvoir les activer rapidement en cas de besoin. Donc, en fait, le nucléaire les aide pas beaucoup. Ça se gère mieux si chaque tranche nucléaire représente 2 ou 3 % du système. À ce moment-là, on garde des réserves raisonnables, mais quand une tranche nucléaire représente un très gros pourcentage de la consommation d'énergie, chaque bris devient très, très important. Alors, dans un petit marché comme l'Australie méridionale, on installerait un EPR, ça représenterait, je sais pas, 40 % de la consommation, quelque chose comme ça, on serait obligé de garder une réserve équivalente. Donc, c'est pas extrêmement rentable comme façon de fonctionner.
On est en train de se faire des amis parmi les pro-nucléaires, même si je ne suis pas sûr qu'ils soient restés pendant 55 minutes pour arriver jusqu'ici à voir. Mais non, bon, en tout cas, c'est un épisode qu'on va titrer 70% renouvelables et qu'on va diffuser et qu'on ne va pas titrer 0% nucléaire. Voilà, on n'est pas dans cette
Oui,
provocation-là. C'est
et
ça qui est
même
rigolo de
le
tenter,
chiffre.
mais ce n'est pas l'objectif.
Et même pour l'Australie méridionale, le chiffre le plus récent, c'est 72% de renouvelables.
72%, allez,
Si on veut être
c'est vendu. 72%.
vraiment précis.
Ouais, c'est en valeur instantanée,
Si on veut être
effectivement.
vraiment précis, c'est ça.
Parce que,
Ça va être ça
voilà,
le
il y a eu.
titre de l'épisode, 72% électricité éolienne et solaire, et voilà.
Voilà, c'est qu'il y a eu un pic en valeur
Et le temps que
instantanée
tu
sur
mettes la
l'hiver.
vidéo en ligne, on va être rendu à 73%. Ça bouge.
Ouais, bah,
Ça bouge vraiment très, très vite.
peut-être.
Alors, je vais me dépêcher. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, très intéressant. On en reparlera.